interview met Mohamed Arkoun op 3 augustus in Parijs.
Ce qu'on écrit dans des livres qui atteignent très peu le grand public, c'est le rôle des journalistes. Moi, je suis très content de ça. Au contraire.
Justement parce que
je trouve qu'ils ne le font pas assez.
Qu'ils ne le font pas assez.
Non, oui.
Parce que j'ai lu dans quelques passages que vous avez aussi de la critique envers les journalistes et quand ils emploient l'imaginaire un peu trop simpliste.
Oui, parce que il y a une littérature que font ce qu'on appelle les politologues, surtout sur l'islam fondamentaliste actuel, qui scientifiquement n'est pas très satisfaisante. Parce qu'ils insistent beaucoup trop sur ce qui se passe actuellement dans les sociétés musulmanes et qui a un caractère essentiellement politique. Et ils regardent ces événements dans une conjoncture très courte, sans regarder la genèse historique de ces événements. Et donc ils donnent une interprétation qui n'est pas correcte. Alors si les journalistes se contentent de consulter cette littérature, et c'est celle-là qu'ils consultent pas parce qu'il est proche justement du caractère événementiel du travail journalistique.
Ça digère facilement.
Alors ils se comprennent bien. Alors ça fait une sorte de connivence entre les journalistes qui sont obligés évidemment de travailler très vite et de refléter l'événement, et les politologues qui font à peu près le même travail, sauf qu'ils travaillent peut-être sur une conjoncture de 20 ans, alors que le journaliste travaille au jour le jour. Et l'historien, lui, il travaille sur des siècles. Alors vous voyez, la perspective est complètement différente. Et les journalistes, beaucoup de journalistes, parce qu'ils sont pressés, ont tendance à lire plutôt cette littérature parce qu'elle est facile à digérer et à utiliser que d'aller voir ce que disent les historiens, les anthropologues, les sociologues qui, évidemment, regardent les choses d'une manière beaucoup plus large et approfondie. C'est ça que je critique. Et en ce qui concerne l'islam, malheureusement, ces 20 dernières années, ce genre de connivence entre le journalisme et les politologues s'est beaucoup développé. Et quand on donne un livre un peu élaboré, ils disent c'est trop compliqué, on ne comprend pas.
Même sans le dire.
Même sans le dire, a priori, ils n'ont pas le temps, effectivement. Je conçois qu'on n'a pas le temps, mais quand même, ça fait une responsabilité quand même vis-à-vis du public et finalement vis-à-vis de la société. C'est dangereux.
Et vous voyez agrandir ce phénomène
Pour l'islam, en ce qui concerne l'islam, ça s'est beaucoup développé dans les 20 dernières années, avec Khomeini, depuis l'avènement de Khomeini. Du point de vue français, moi ça me rappelle, parce que j'étais déjà jeune à ce moment-là et je suivais bien les choses pendant la guerre d'Algérie. La presse française agissait exactement de la même façon. En plus, là, elle était très, très engagée dans l'affaire parce que ça concernait directement la France. Alors là, le journalisme a fait un mauvais travail. Et je me souviens très bien de ça. Et voilà pourquoi je suis très sensible au travail des journalistes sur des événements importants. J'ai été marqué par tout ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Et on a répété pratiquement la même chose avec Khomeini, avec la guerre du Golfe. Chaque fois qu'il y a un coup dur important où des nations sont engagées dans leur profondeur, les journalistes font le même travail d'idéologisation et d'excitation de ce que j'appelle l'imaginaire. Et ça, c'est un problème de notre temps.
Un problème de notre temps?
Oui, parce que le journalisme a pris dans notre temps une importance considérable. C'est un pouvoir réel dans la société. Le journalisme, aussi bien parlé qu'écrit, pratiquement ce sont eux qui font et défont l'opinion. Ce ne sont plus les intellectuels ou les chercheurs ou même les politiciens. C'est un pouvoir considérable. Ça n'existait pas avant, bien sûr.
Parler régulièrement du monde des intellectuels qui devrait rechercher le dialogue avec les politiciens.
Oui, oui, j'ai fait un livre avec un ministre hollandais qui va paraître, j'espère, au mois de septembre, là, justement tout sur ces questions-là. Aussi, c'est comme le livre là, que vous avez vu. Mm-hmm. Mais on l'a fait à partir de la Hollande et de la manière dont la Hollande gère les questions de l'islam et de l'immigration. Et la Hollande est un pays que j'aime beaucoup.
Oui. C'est quel ministre que vous...
Bolkestein. Il est le leader du Parti libéral.
Mm-hmm. Et j'aimerais me dire aussi que l'Hollande peut paraître un exemple d'intégration plutôt.
Oui, la Hollande, oui, oui. Vous avez vu peut-être que j'ai enseigné là-bas depuis deux ans.
Amsterdam.
Amsterdam, oui. Et quand je compare l'attitude hollandaise et l'attitude française, je préfère les Hollandais, bien que je sois français et que je vive en France. Objectivement, je crois que les Hollandais ont une approche beaucoup plus détendue, parce que les Français sont très tendus vis-à-vis de la question de l'islam. Parce que ça leur rappelle évidemment des souvenirs, et en France, on vit ça depuis très longtemps. Mm-hmm. Tandis que les Hollandais sont beaucoup plus détendus à cet égard, et on sent moins d'animosité a priori contre tout ce qui concerne l'islam et le monde musulman. Mm-hmm.
Je crois que ça c'est un des mots clés justement, c'est a priori. Entre, par exemple, chrétiens et musulmans, tout le monde a justement cette nécessité de pouvoir juger facilement ce que l'autre.
Les rapports entre chrétiens et musulmans ont évolué plutôt, à mon avis, dans un sens positif. Mm-hmm. Parce que jusqu'à la fin des dominations coloniales, l'Église avait une vision de l'islam qui voulait convertir même les musulmans, comme on a converti les gens en Afrique. Ce qui veut dire que le christianisme avait une théologie très agressive et très sûre d'elle-même. Et l'islam était inclus dans la mission chrétienne, protestante et catholique. Les deux l'ont fait. Tandis qu'après la libération, la fin de la colonisation, et surtout après Vatican II, l'Église a une attitude beaucoup plus compréhensive que l'État. Mm-hmm. C'est-à-dire le monde politique est resté très, très dur vis-à-vis du monde musulman, et il a continué à développer une stratégie de pouvoir et de domination. Tandis que l'Église, au contraire, depuis Vatican II, développe une stratégie de dialogue, de communication. Mm-hmm. Donc ce sont deux évolutions nettement opposées.
Mm-hmm. Pourtant, on a l'impression dans
les États continuent de gérer le pouvoir, la puissance vis-à-vis du monde musulman. Parce qu'il y a quelque chose d'important pour tous les États occidentaux, c'est le pétrole et l'argent du pétrole. Donc il faut gérer cette puissance. Or, le problème du pétrole et des pétrodollars est devenu de plus en plus important à partir des années 60. Les 70, ça coïncide avec la fin de la colonisation. Mm-hmm. Donc les États ont continué à développer des stratégies de pouvoir et de domination dans les pays du tiers-monde et les sociétés colonisées autrefois. Tandis qu'au contraire, l'Église, à partir de Vatican II, essaye de cultiver le dialogue. Mm-hmm. Ça mérite d'être noté.
Moi-même, je suis chrétien catholique. Et on a l'impression, nous comme catholiques pratiquants, que même dans l'Église, il y a plutôt un courant d'isolation. En parlant par exemple de l'œcuménisme, on a l'impression que l'attitude de l'Église se durcit. Mais ça me surprend un peu que vous parliez d'une Église plus ouverte à l'islam.
Oui, parce que là, j'ai connu les Pères Blancs en Algérie, et les Pères Blancs avaient une attitude missionnaire. Oui. Quand on a une attitude missionnaire, cela veut dire que on vient vers vous pour vous apporter la vérité, et par conséquent, ce que vous avez n'est pas vrai. Mm-hmm.
C'est leur attitude jusqu'au Vatican II.
Exactement. Mm-hmm. Il y a l'attitude de l'Église, aussi bien protestante. Les protestants ne sont pas différents. Hein. Mm-hmm. Ils ont développé une mission exactement comme les catholiques. Mm-hmm. Et le principe même de la mission implique un jugement de valeur sur la religion de ceux que l'on veut convertir. Et par conséquent sur leur culture. Et c'est un jugement d'infériorité qui infériorise. Ben, ça a été comme ça jusqu'à la fin des années 50, début des années 60.
Vous avez ressenti ça personnellement dans votre vie?
Bien sûr, oui, absolument, oui. J'ai connu des enfants en Algérie qui a fait, puisqu'ils ont été fondés en Algérie par le cardinal Lavigne.
Oui. Oui. On fait son centenaire, je crois.
Oui, oui, on a fait 1892. Mm-hmm. On l'a fêté en 92.
Et en quoi est-ce que vous avez ressenti cette présence missionnaire?
Ben, parce qu'ils avaient des écoles, et ils essayaient, par évidemment une approche de charité, par des dispensaires comme ils font en Afrique, par l'école, d'attirer la population et de leur faire découvrir le Christ. Mm-hmm. Cette démarche, évidemment, n'est pas absolument mauvaise en soi, je ne la condamne pas absolument. Ce que je condamne, c'est l'attitude intellectuelle qui porte un jugement de valeur sur une religion.
Mmh. Vous avez senti ça comme une humiliation envers votre culture, envers votre foi, comme une jeune?
Oui, bien sûr, oui. 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 Tellement une humiliation que personnellement justement j'ai décidé de faire des études d'arabe et des études islamiques pour me faire une idée personnellement. Mm-hmm. Parce que je ne voulais pas en rester justement à ce sentiment d'infériorité que pas seulement les perdus, de la colonisation d'une façon générale. Moi j'ai été dans l'école française en Algérie jusqu'en 54. J'ai grandi dans les lycées français et l'université française. Et je me souviens très bien du regard condescendant et d'infériorité que l'ensemble des Français portaient sur ce qu'ils appelaient les indigènes. Oui, ça c'est... Mmh. Les gens de ma génération ont bien connu ça. Mmh. Alors, il y en a qui réagissent politiquement, alors ils s'engagent dans le combat politique. C'est ce qui s'est passé pour des militants du FLN en Algérie, des mouvements nationaux. Et puis on a quelques intellectuels qui réagissent par une distanciation critique très forte, à la fois à l'égard de la culture dominante et de la culture dominée, parce que il faut aussi se demander pourquoi... Pourquoi les pays musulmans étaient dans un état effectivement de faiblesse, mm-hmm. qui se prêtait à la domination coloniale au 19e mm-hmm. siècle. Il faut expliquer ça. Il ne faut pas faire un discours moral. Mm-hmm. C'est une réalité historique. Donc ça développe un regard critique. Cette expérience de la confrontation avec le colonisateur dominateur qui se pose comme un modèle historique pour les autres.
Est-ce que vous avez une réponse pour cette défaite que le pays n'a pas resté plus de résistance contre le colonisateur?
Oui, j'ai beaucoup étudié ça, oui. J'en ai parlé souvent dans des livres et des articles, bien sûr. C'est une histoire compliquée et qui concerne l'ensemble du monde méditerranéen. C'est toute l'histoire du pourtour de la Méditerranée. Mmh. La Méditerranée a toujours été un enjeu de compétition depuis les Phéniciens et les Grecs, et ça n'a jamais arrêté, et l'islam a introduit une dynamique encore beaucoup plus forte à partir du 7e siècle dans cette compétition pour le contrôle de la Méditerranée. Non seulement le contrôle des richesses, des voies de commerce, etc., mais aussi le contrôle des richesses symboliques par la religion. Parce que les religions apportent chacune une interprétation symbolique de l'existence humaine, et ces interprétations symboliques ont utilisé les mêmes références fondamentales, qui sont la révélation, le discours prophétique, la fonction prophétique, l'enseignement prophétique. Tout cela constitue les axes à partir desquels se sont développées des interprétations symboliques de l'existence humaine par les trois religions concurrentes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et l'islam au 7e siècle a accentué une opposition qui existait déjà entre le judaïsme et le christianisme. Alors cette compétition s'est traduite en termes politiques par des empires, l'empire byzantin contre l'empire musulman, la défection de l'empire romain, et ensuite l'entrée en scène de l'islam dans 5 siècles qui a exercé l'hégémonie sur toute la Méditerranée, du 7e jusqu'au 11e siècle. Ensuite, à partir du 12e siècle, il y a l'entrée en scène de l'Europe chrétienne catholique, qui n'a pas cessé de grandir en puissance et qui a fini par progressivement éliminer la puissance musulmane de la Méditerranée. Et le dernier épisode important, qui s'est terminé par une défaite complète de l'islam, c'est la lutte entre l'Empire ottoman et la puissance européenne à partir du 16e siècle. Ce sont des compétitions qui n'ont jamais cessé et qui durent encore d'ailleurs. La guerre du Golfe, c'est un épisode parmi beaucoup d'autres depuis l'apparition de l'islam pour cette hégémonie.
C'est un épisode de l'histoire de l'islam ? La guerre du Golfe ?
Ah ben bien sûr, oui. Oui, bien sûr.
C'est pas un épisode de la géopolitique, disons, du Moyen-Orient ?
Si, mais ça touche l'évolution des sociétés arabes et des sociétés musulmanes, et ça touche l'évolution de l'islam, en ce sens que on a essayé de mobiliser l'islam pour lui faire jouer un rôle politique pendant la guerre. Et en ce sens aussi que la défaite spectaculaire de l'Irak et de l'ensemble du monde arabe a des retentissements considérables sur la culture, sur la vie intellectuelle, sur la vie religieuse. Ce n'est pas une défaite uniquement politique et économique. Et même celle-là, à mon avis, elle est beaucoup moins importante que la défaite spirituelle.
Ah oui. Ben bien sûr. On n'entend pas beaucoup dire cela chez nous.
Ben parce que on s'en fout. C'est pas le problème de l'Europe. Mais c'est tout le problème de la puissance. Comment l'Europe gère la question du sens et de la puissance ? L'Europe vis-à-vis des autres ne pose jamais la question du sens. Ça n'est pas son problème. Son problème, c'est la puissance. Développer la puissance et maintenir la puissance que l'on a acquise par tous les moyens. Et à aucun moment on ne pose la question du sens. À aucune étape. Et dans aucune circonstance. Y compris dans l'enseignement. Ça c'est très net. Une volonté de puissance absolument déchaînée et servie par des calculs et des tactiques cyniques ouvertes qui n'essayent absolument pas de se dissimuler et qui n'essayent pas non plus de se donner une finalité humaine quelconque. Absolument pas. Au 19e siècle, on avait essayé de dire que la colonisation se justifiait par la nécessité de transférer le progrès dans les sociétés attardées, archaïques et primitives.
Les indigènes.
Alors, on a essayé d'utiliser l'idée de progrès comme devant bénéficier à toutes les sociétés humaines. C'était une vision qui avait dominé beaucoup d'intellectuels et même d'artistes, d'écrivains. XVIIIe ou XIXe siècle. Tandis qu'après la décolonisation, ce type d'argumentation a complètement disparu parce que les sciences sociales n'admettent pas ce genre de langage moralisateur. L'Occident a perdu d'ailleurs l'intérêt qu'il avait pour la réflexion morale, même en ce qui le concerne lui-même. La réflexion éthique n'intéresse pas désormais les Occidentaux, même pour eux-mêmes, même en ce qui les concerne. Donc il y a une crise de la préoccupation éthique dans la vie des sociétés européennes. Et cette crise, évidemment, entraîne un cynisme dans les relations entre les pays européens et le reste du monde, les sociétés du tiers-monde, qui sont encore plus affaiblies et beaucoup plus fragilisées qu'elles ne l'étaient au temps du colonialisme. Les choses se sont aggravées, alors que l'on espérait au lendemain de la décolonisation qu'au contraire, elles deviendraient plus gérable. Et c'est le contraire qui s'est produit. Et ça, la responsabilité incombe aussi bien à la politique de puissance de l'Occident que aussi à la politique conduite par les nouvelles élites politiques qui ont pris le pouvoir au lendemain des indépendances. Mobutu, par exemple, il suffit de prononcer son nom pour voir les ravages tout à fait exorbitants que les types de pouvoir qui ont émergé au lendemain des indépendances ont exercé sur leur propre pays. On ne peut pas l'ignorer désormais. Mais la question la plus navrante, c'est l'utilisation qui a été faite par les États d'Occident de cette faiblesse et de cette trahison des élites politiques à l'égard de leur propre peuple. Ils l'ont utilisé d'une manière tout à fait cynique.
Sans réagir.
Absolument. Non seulement ils n'ont pas réagi, mais ils sont soutenus. C'est ce type de pouvoir. Partout.
Et vous soutenez
encore. Et c'est en cela que je dis, la question du sens ne les intéresse pas. La question des conséquences de la politique conduite par ces élites vis-à-vis de leur peuple n'a jamais intéressé personne. Pas plus qu'on s'est posé la question de Ceausescu en Roumanie. Vous vous rappelez tout le tapage qu'on a fait sur Ceausescu quand on a découvert tout ce qu'il faisait et qu'on a découvert que les démocraties libérales traitaient avec lui comme si c'était un souverain respectable. Ça, c'est beaucoup plus désolant, parce que ça vient de pays qui, par ailleurs, exercent une responsabilité sans partage dans le monde. Ce sont eux qui décident, ce sont eux qui font et défont les pouvoirs dans le monde, et malheureusement, ils agissent d'une façon difficile à qualifier et à accepter.
M'a touché beaucoup justement dans cette interview avec Croissance que l'intervieweur vous demandait, nous sommes en panne de sens, et que vous répondez justement, il n'y a pas la panne de sens, il y a la panne de la préoccupation, cette question même. Ça vous accable personnellement
qu'on n'a pas préoccupé. Ça m'accable parce que j'appartiens quand même à un pays qui lui aussi, comme le Zaïre, vit une tragédie ininterrompue depuis l'indépendance. C'est pour cela que je suis très sensible au cas du Zaïre ou du Nigeria ou de Zimbabwe, tous ces pays africains qui vivent une véritable tragédie sans aucun espoir de recours, sans pouvoir se dire qu'une aide pourrait venir de quelque nation que ce soit. Nous savons maintenant qu'il n'y a aucune espèce d'aide à espérer.
Il y a seulement une aide.
Et qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons des carences et nous avons même des sortes de mafias qui se sont constituées très vite et que l'on appelle des mafias politico-financières à l'image des mafias européennes. Mais ce sont des mafias qui se sont constituées sur des peuples innocents, au sens où un peuple n'a pas vécu toutes les expériences historiques que les peuples européens ont vécues. Ce sont des peuples qui viennent directement de l'innocence de la brousse et de la nature, à qui on inflige des procédés de mafia qui ont été mis au point dans des sociétés sophistiquées en Europe, avec une économie sophistiquée, avec une circulation monétaire sans précédent historiquement dans ces sociétés. La monétarisation de la vie de ces sociétés a pris des dimensions sans proportion vis-à-vis de ce qui existait, de l'économie qui existait dans ces sociétés. Et cela a entraîné une dislocation complète des rapports d'échange, des rapports de production, c'est-à-dire des rapports humains dans les sociétés. Et ce qu'on appelle les élites, entre guillemets bien sûr, ont profité de cette situation pour elles-mêmes, au détriment des peuples. L'histoire de l'Algérie, c'est exactement cela depuis l'indépendance. Un petit groupe de politiciens, le FLN, qui a pris le pouvoir et qui l'a exercé sans partage. C'est un parti unique qui a interdit la formation, toute formation politique, toute association pendant 30 ans, alors qu'il avait mené une guerre de libération. Ça s'appelle guerre de libération. On assiste à des choses tout à fait tragiques. Et pour quelqu'un qui a vécu cela en intellectuel, en analyste, en chercheur, ce qui a été toujours mon cas, je n'ai jamais exercé de responsabilité politique, ça devient quelque chose de très angoissant. On porte cette angoisse continuellement à mesure que les événements se déroulent et que l'on voit, on constate une impuissance à les arrêter ou à remédier ou à les orienter différemment.
Mais vous êtes aussi prudent avec ce qui se passe maintenant dans l'office.
Pardon?
Comme intellectuel maintenant, regardant le front islamique, vous comprenez certainement la réaction.
Ah ben bien sûr, je n'ai jamais rien dit contre l'office, politiquement. Jamais. Parce que politiquement, il s'est passé des choses en Algérie, malheureusement, qui font que cette protestation est inéluctable.
Mais comme musulman intellectuel.
Alors, du point de vue intellectuel et du point de vue de l'islam, ça c'est autre chose. Je parle en tant qu'historien de la pensée islamique, mais ça ne touche pas le fils en tant que tel, en tant que mouvement politique. Ça touche l'ensemble de l'islam, l'ensemble de l'histoire de la pensée islamique. Et ça touche l'islam comme religion. Ça touche l'islam dans ses cadres spirituels et intellectuels. La réflexion théologique actuellement en islam est extrêmement faible et même, pour ainsi dire, inexistante. Quand on compare à ce qui se passe dans le protestantisme et le catholicisme, on peut dire que il n'y a pas de réflexion théologique en islam. Alors là, c'est un problème qui dépasse considérablement la question du fils ou de n'importe quel mouvement en Tunisie ou en Égypte ou ailleurs. Ça, c'est autre chose, c'est une autre échelle. Justement, il faut bien distinguer les enjeux politiques des mouvements qu'on appelle fondamentalistes, et puis les enjeux religieux, proprement religieux et intellectuels. Les uns sont locaux, les problèmes politiques sont locaux, ils sont particuliers à chaque société et à chaque histoire de la société, l'histoire du Maroc, par exemple, ne peut pas être comparée à l'histoire de l'Algérie. Ce sont des histoires différentes. L'histoire de l'État marocain est différente de l'histoire de l'État algérien. Voilà pourquoi les aspects politiques des mouvements ou des partis politiques qui existent dans ces pays-là doivent être analysés en fonction de l'histoire de chaque pays. C'est local. Tandis que la question de l'islam est une question beaucoup plus universelle, beaucoup plus large. Et voilà un point sur lequel, justement, je me désolidarise toujours avec mes collègues politologues qui écrivent sur l'islam fondamentaliste et qui insistent sur le caractère islamique de ces mouvements. Alors que moi, pour moi, je ne dis jamais que ce sont des mouvements religieux. Je les traite comme des mouvements politiques. Un point final.
Il n'y a pas des communs.
Non. C'est autre chose. La question de l'islam, c'est autre chose. Je ne peux pas lier la question de l'islam à ce qu'a fait Khomeini en Iran, ou à ce que font les mouvements islamistes en Égypte, ou en Tunisie, ou au Pakistan, ou ailleurs. C'est autre chose. C'est un autre niveau de réflexion et d'analyse. Mais ça n'est pas bien compris. Et les Occidentaux préfèrent dire que l'islam ne sépare pas la religion de l'État. Alors là aussi, ils apportent leur modèle à eux et ils l'appliquent de manière arbitraire en disant « Pourquoi vous ne faites pas comme nous ?» C'est inacceptable, bien sûr, de dire les choses ainsi. Je ne suis pas contre, évidemment, la séparation, au contraire. Je milite toujours pour, justement, la séparation. Ce que je viens de dire, c'est une séparation. Je suis pour la séparation. Seulement, cette façon de lier deux aspects entièrement différents de la vie actuelle des sociétés où la référence islamique existe, cette manière d'interpréter des mouvements politiques comme des mouvements religieux, ça ne peut pas satisfaire ni l'historien, ni le sociologue, ni l'anthropologue, ni encore moins, bien sûr, le théologien.
Mais les politiciens, ils paraissent employer la religion comme imaginaire qui renforce justement leur politique.
Oui, je me trompe. Non, ça, bien sûr, tous les États qui se sont formés après les mouvements d'indépendance dans les années 50 et 60 ont eu besoin de créer une instance de légitimation de leur pouvoir. Et cette instance a disparu pratiquement dans la plupart des pays musulmans, puisque la plupart de ces pays ont connu la colonisation. Et pendant la colonisation, l'instance de légitimation du pouvoir a complètement disparu, puisque le pouvoir lui-même a disparu. Il a donc fallu, après l'indépendance, rétablir l'instance de légitimation. Voilà une différence entre le Maroc et l'Algérie, ou la Tunisie, ou d'autres pays. Parce qu'au Maroc, il y a eu la continuité de l'État. L'État marocain, en tant qu'instance à la fois de légitimité et de pouvoir, avec le roi, ou autrefois le sultan, qui était l'instance de légitimation, avec les oulémas, et qui détenait le pouvoir politique au nom de cette légitimité, cet État-là n'a pas disparu, il n'a jamais disparu. Tandis que dans d'autres pays, comme l'Algérie, il a complètement disparu. C'est l'État français qui a exercé la souveraineté. Donc au lendemain de l'indépendance, il a fallu créer l'État, et en créant l'État, il fallait créer une instance de légitimation. Alors cette instance pouvait venir soit du suffrage universel, comme en Europe, à condition de faire des élections libres, soit de la tradition. Comme les partis uniques ont refusé le processus démocratique, leur légitimité ne pouvait pas venir du suffrage universel. Et voilà pourquoi ils se sont tournés vers la religion pour lui demander de remplir ce vide de légitimité. Et ils ont utilisé la religion. C'est ce qui s'est passé en Algérie en particulier. Mais le Pakistan est un État qui a été fondé de toutes pièces au nom de la religion, puisque ce sont des Indiens, des Hindous qui se sont séparés de l'Inde, du reste de la population indienne, parce qu'ils constituaient une population musulmane minoritaire par rapport aux Hindous. Donc ils ont fondé un État qui d'emblée a proclamé l'islam comme étant sa caractéristique et son instance de légitimité. Et beaucoup d'exemples ont fonctionné de cette façon-là. Voilà pourquoi l'islam, effectivement, a reçu une plus grande visibilité dans la société. Parce que le nouvel État lui a donné cette visibilité. Mais il faut faire attention, cela veut dire que l'État a étatisé la religion. Étatisé, voilà le mot le plus important. Alors que la religion jouit d'une indépendance par rapport à l'État. Et que l'État, au temps du califat, était obligé de respecter les oulémas comme l'instance de l'autorité légitimante. Et une instance indépendante de l'État. Et l'État, dans le droit musulman, n'a pas le droit de légiférer. Ce sont les oulémas et théologiens qui ont le droit, non pas de légiférer non plus, mais d'interpréter le texte sacré de façon à énoncer la loi. Voilà comment fonctionne l'État classique. Avec l'État contemporain, toute cette construction juridique est complètement détruite. Et l'État légifère en toute souveraineté, sans consulter les oulémas. Et les oulémas deviennent des fonctionnaires de l'État. Ils sont nommés par l'État et payés par lui. Voilà pourquoi l'islam a été entièrement étatisé. Beaucoup plus qu'il ne l'a été au Moyen-Âge. Et c'est cela aussi que l'on n'explique pas suffisamment quand on dit que l'islam ne sépare pas la religion de l'État. C'est pas comme ça qu'il faut parler.
C'est différent au Moyen-Âge, par exemple, déjà.
Oui, c'est tout à fait différent. Au Moyen-Âge, la religion jouissait d'une plus grande indépendance par rapport au pouvoir politique.
Je vous ai entendu encore à la télévision, comme ça vous fait rare que qu'il y a un ministre
de... Encore.
J'espère que oui, ça marche encore.
Il y a un ministre d'affaires religieuses, par
voilà,
exemple.
Bien sûr, oui. C'est inadmissible. Inadmissible.
Inadmissible du point de vue théologique.
Oui. Du point de vue théologique, musulman, c'est tout à fait inadmissible. Seulement, l'État, il est arrogant. Il ne demande l'avis de personne. Il exerce le pouvoir avec une intolérance totale et un mépris du citoyen qui émettrait des objections. Et là, il faut dire aussi que les intellectuels ont montré une carence vis-à-vis de l'État, parce qu'ils ne l'ont pas critiqué. Autrefois, au Moyen-Âge, il y avait des intellectuels qui critiquaient le calife ou le sultan. Lorsqu'il s'écartait, justement, de l'instance de l'autorité. Quand il portait atteinte à l'instance de l'autorité, il se permettait de le critiquer. Tandis que dans l'État contemporain, les intellectuels ont cessé de critiquer l'État parce que ils ont fait partie du grand enthousiasme de l'adhésion au nationalisme. Le sentiment nationaliste a joué pour les intellectuels le même rôle que le sentiment religieux. C'est-à-dire qu'ils ont une adhésion inconditionnelle à l'idée nationaliste. Et comme l'État s'est présenté comme l'incarnation de la nation à construire, les intellectuels ont soutenu ce type d'État et ce type de discours. Au détriment d'une réalité très importante qui est l'indépendance du spirituel par rapport aux politiques.
C'est pour cela que vous parlez de la nécessité d'un courage spirituel maintenant.
Absolument. Il faut le dire, je ne cesse de dire ça maintenant, oui. Et maintenant, en Algérie par exemple, les dirigeants sont en train de faire l'expérience de la justesse de cette position. Maintenant, ils écoutent. Oui, oui. Ils me laissent parler, par exemple, ils publient mes articles, ils ont même bien de publier un livre, un de mes livres, à Alger. Et ça montre par conséquent qu'il y a une prise de conscience de l'État à cet égard, mais malheureusement c'est une prise de conscience tardive.
Est-ce que vous êtes un prophète seul dans le désert? Ou est-ce que vous avez des...
Je ne peux pas dire ça. Oui, il y a des collègues, bien sûr. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a, nous sommes peu nombreux à être spécialisés dans l'histoire de la pensée. Il y a des historiens au sens général qui font de l'histoire générale et de l'histoire de la pensée, qui est un domaine très spécialisé. Nous sommes peu nombreux à nous intéresser à ces problèmes-là, alors que la demande est considérable, aussi bien dans les sociétés musulmanes que dans les sociétés européennes. Il y a une demande considérable pour expliquer la fonction du phénomène religieux dans la société. Même les sociétés européennes sont en train de découvrir qu'elles ont quitté le religieux d'une façon prématurée et arbitraire au XVIIIe siècle. Elles ont quitté le religieux par la violence. Elles ne l'ont pas quitté par la réflexion et la connaissance scientifique. Et nous découvrons aujourd'hui que nous sommes ignorants dans le domaine de l'interprétation de la dimension religieuse des sociétés et de l'histoire. Nous sommes ignorants. Et on a quitté le religieux avec arrogance, avec violence et dans l'ignorance. Cela ne veut pas dire qu'il faut revenir au religieux tel qu'il était. Absolument pas. Ça n'est pas du tout ma position. Ma position, au contraire, c'est d'ouvrir un champ d'investigation qui n'a pas été ouvert jusqu'à présent. Et sans aucune espèce d'a priori pour dire il faut protéger la religion, c'est sacré, etc. Aucun a priori de ce type. Il faut y aller exactement comme le savant entre en laboratoire pour faire une recherche sur le virus du sida. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, on entre dans le laboratoire avec l'espoir de trouver quelque chose qui marche. Ben, c'est la même chose. J'entre dans le champ d'investigation sur le phénomène religieux comme le savant qui voudrait savoir et qui ne pose aucune condition au départ.
Mais qui a un rêve.
Comment?
Qui a un rêve de trouver quelque chose.
Un rêve de connaissance.
De
connaissances utilisables et qui puissent réaliser le consensus des hommes. Bon, j'aimerais bien qu'on trouve une théorie du phénomène religieux qui provoque l'agrément de tous les hommes, quelle que soit leur religion. Ce serait un grand progrès. Alors qu'on est en train de brandir partout la religion comme une arme qui sert à des violences inouïes. Donc, pour moi, faire une recherche scientifique sur le phénomène religieux, je compare ça à la recherche actuelle des savants qui s'acharnent pour essayer de trouver un remède contre le sida. Je ne dis pas que ma comparaison est dangereuse, je ne dis pas que la religion est un fléau comparable au sida, c'est pas du tout la question. Ma comparaison vise le laboratoire, ce qui se passe dans le laboratoire et l'esprit de la recherche.
Ce que vous racontez équivaut je crois, à la religion catholique aussi, au christianisme.
Ah, tout à fait. Justement, tout ce que je fais pour l'islam depuis plusieurs années maintenant, chaque fois que j'écris une étude ou que je fais une conférence, je dis toujours, par exemple, religion et laïcité d'après l'exemple de l'islam. L'islam est toujours pour moi un exemple. Ça n'est pas la référence absolue.
Au fond, vous parlez de la religion.
Et donc, je parle du phénomène religieux. Mm-hmm. Comme on parle du phénomène de la vie. Mm-hmm. Ou du phénomène du climat. Mm-hmm. C'est un phénomène. C'est-à-dire quelque chose qui se manifeste devant nous. Et un phénomène, on ne le comprend pas immédiatement. Surtout quand il est aussi complexe. Donc il faut l'étudier en tant que phénomène. Et quand je dis d'après l'exemple de l'islam, ça veut dire que je considère sur le même tous les exemples que je peux étudier, évidemment, on ne peut pas tous les étudier, mais principalement j'insiste beaucoup sur l'espace historique et culturel commun que connaissent les trois religions révélées. Mm-hmm.
Est-ce que vous considérez comme sociologue de la religion? Ou est-ce que c'est trop peu dire?
Oui, la sociologie, ça n'est pas suffisant. C'est une partie d'une investigation. Mm-hmm. Dans la mesure où la sociologie essaye simplement de voir ce qui se passe chez les différents groupes sociaux, ça n'est pas suffisant. Ce qui m'intéresse, c'est l'anthropologie religieuse. Mm-hmm. C'est-à-dire le phénomène religieux interprété au niveau de ces différentes manifestations dans les cultures les plus diverses. Pour essayer de saisir ces mécanismes communs dans les cultures et les sociétés les plus diverses. Alors la théorie anthropologique a une ambition d'universalisation. Mmh. Tandis que la sociologie, elle s'intéresse à une société et même à un groupe dans la société. C'est utile, il faut le faire, pour voir ce que devient effectivement la religion théorique sur le terrain. Mais ça n'est pas suffisant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est beaucoup plus l'interprétation anthropologique du fait religieux. Et pour moi, cette connaissance anthropologique du fait religieux doit précéder même la réflexion théologique.
Et elle doit précéder.
Ah oui, absolument. Elle doit précéder méthodologiquement, elle doit la précéder. Sinon, on fait des sermons.
Ah oui.
On ne fait pas de la science.
Mmh. Question de liberté académique.
Mmh. Oui, oui. Mmh. Oui, oui. Mmh. Sinon, on fait du catéchisme. Mmh. Ça n'est pas de la science.
Parce que je m'imagine que les théologiens dans l'islam, comme dans le christianisme, ne sont pas toujours très heureux avec des réflexions.
Mais bien sûr, c'est pour cela qu'ils sont opposés à ça. Mais les théologiens ont une fonction dans la société, ou plutôt dans leur communauté. Ils doivent maintenir une relation de foi entre la religion et les fidèles. Et ils essayent d'expliquer aux fidèles comment doit fonctionner la foi dans une société. C'est une responsabilité morale. Mmh. Mais dans ce travail, ils ne tiennent pas nécessairement compte de toutes les recherches que font les historiens, les linguistes, les anthropologues, etc., pour interpréter scientifiquement ce qu'ils enseignent à leurs fidèles, sur un mode surtout dogmatique, c'est-à-dire qui ne pose pas de préalable scientifique. Et ça demeure justement une faiblesse du fonctionnement de la religion dans nos sociétés, même parmi les chrétiens qui vivent dans un environnement scientifique et intellectuel extrêmement riche et évolué en Europe. Bien, ils n'utilisent pas toujours comme ils le devraient ces ressources pour faire progresser l'interprétation théologique de la religion.
Une séparation entre les deux.
Ben oui. Mm-hmm. C'est pour cela que dans les universités, les relations entre les départements de théologie et les départements de philosophie, par exemple, ou les départements d'anthropologie, ne sont pas aussi intimes qu'elles devraient l'être. Mm-hmm. Il peut même y avoir des fossés qui les séparent. Et oui.
Vous avez ce sentiment?
Ah, mais ce n'est pas, ce n'est pas un sentiment, j'en ai l'expérience. Ouais. Parce que je m'intéresse beaucoup à ce problème justement, c'est un problème qui fait partie de mon métier. Mm-hmm. Et en Allemagne par exemple, où il y a beaucoup de départements de théologie, les théologiens ne se mêlent pas suffisamment aux autres départements. Mm-hmm. Et inversement, les autres départements ne viennent pas voir ce que font les théologiens. Et chez vous en Belgique, vous avez l'université libre de Bruxelles qui cultive une religion laïque pour l'opposer à la religion traditionnelle. Ça n'est pas digne d'une université. Mais les Français font la même chose. Parce que dans les universités françaises, il n'y a pas du tout de département de théologie, comme vous en avez chez vous à Louvain ou bien en Hollande, en Angleterre. Il n'y a que la France qui a fait ça, et la partie francophone de la Belgique. Ça, c'est un phénomène propre au parcours culturel français, qui a éliminé même la partie proprement intellectuelle et culturelle de la religion, sous prétexte de laïcité. C'est une religion dogmatique que je ne cesse de dénoncer. Je suis tout à fait choqué intellectuellement lorsque je vois encore maintenant, on dit université libre de Bruxelles, libre signifiant une agressivité laïque. Laïque, plutôt pardon, laïciste.
Mais
faut pas dire laïque, parce que la laïcité est une valeur. Il faut cultiver. Et maintenant, nous avons des prêtres, par exemple, des théologiens, qui sont profondément laïcs. Mm-hmm. Ce sont des défenseurs de la laïcité. Mon ami, le père Claude Geffray, qui est professeur à l'Institut catholique de Paris, il défend la laïcité dans tous ses écrits et son enseignement. Seulement, c'est une laïcité extrêmement ouverte, qui n'a pas du tout l'attitude agressive et hostile, laïciste, vis-à-vis du phénomène religieux. Et c'est tout à fait étonnant d'ailleurs que l'on ait pu développer dans un pays comme la France, pourtant riche d'idées, de vie intellectuelle, de sens critique, il y a tout. Ben, ils ont développé cet aspect laïciste qui a fonctionné comme une véritable religion de substitution. Et Rousseau, d'ailleurs, avait déjà, Rousseau a théorisé ce qu'il a appelé la religion civile, pour substituer la religion civile à la religion traditionnelle, chrétienne, avec ses rituels, etc.
Et ça vous paraît une gaffe de...
C'est intellectuellement aberrant. Et malheureusement, une grande partie de la tradition intellectuelle, et surtout la tradition politique, en France et en Europe, a été touchée par cette erreur. Et vit sur cette erreur. C'est pourquoi en France, dès qu'on touche à un problème de l'éducation, c'est immédiatement... Attention, ne rallumez pas la guerre. Voilà l'expression qu'on emploie. Mmh. C'est tout de suite la guerre. Récemment encore, on a eu un exemple. Balladur veut réviser, je me rappelle plus le nom de la loi, qui date du 19e siècle. Immédiatement, on parle de guerre. Vous allez rallumer la guerre scolaire. Voilà, en France. Il n'y a pas du tout de sérénité. Pas de sérénité. Et ça retentit malheureusement sur un certain nombre de pays musulmans, comme en Afrique du Nord, parce que les Marocains, les Algériens, les Tunisiens continuent toujours de regarder ce qui se passe en France. ils sont toujours influencés par la culture française et le modèle français. Quand ils voient ces débats qui se déroulent sur la laïcité, ils sont influencés par ces débats. Et en Algérie actuellement, vous avez des intellectuels algériens qui parlent du fils exactement comme les laïcistes français parlent de l'Église, en mélangeant tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout.
Votre propre vie comme croyant ne pose pas de plus en plus de questions dans cette, disons, discipline scientifique, voyant votre propre foi, avec toute cette question, ça ne mêle pas dans votre vie personnelle, comment dirais-je, est-ce que ça ne complique pas votre vie comme croyant musulman?
Pas du tout, non, non, non.
Pas cette distance critique?
Non, non.
Et d'autre part,
oui, parce que la distance critique, c'est en définitive la vie même de l'esprit. Et l'essence de la religion, si elle est bien comprise, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie intense de l'esprit que de pratiquer dans tous les domaines cet esprit critique qui veut comprendre et qui laisse toute la place à toutes les manifestations culturelles de l'esprit humain, qui ne rejette rien et qui au contraire prend tout en considération avec non seulement respect mais le désir de comprendre. C'est une définition, à mon avis, qui vaut tout à la fois pour un intellectuel complètement laïque et pour ce que les religieux autrefois pratiquaient sous le nom d'ascèse spirituelle. Psychologiquement, l'ascèse que pratiquaient les mystiques d'autrefois ressemble à cette ascèse intellectuelle que pratique aujourd'hui le savant, avec tout le scrupule de la conscience pour ne rien laisser au hasard dans son effort de connaissance. Il y a donc une région commune où il n'y a pas du tout de conflit, du tout de séparation, pas de sphère constituée à part, à partir du moment où c'est l'esprit qui développe sa dynamique propre, qui est une dynamique d'investigation, d'interrogation, d'enquête infinie qui ne s'arrête jamais pour accueillir toujours plus de données afin d'affiner sa connaissance. C'est une forme de quête d'un absolu concret au lieu qu'il soit un absolu abstrait. C'est ce que faisait le mystique par rapport à un Dieu qui vivait à l'intérieur de lui-même, mais qui est resté invisible, inaccessible, mais qui vit intensément du fait justement de cette dynamique interne qu'il développe. Tandis que l'ascèse du chercheur aujourd'hui, c'est une ascèse concrète, parce qu'elle travaille sur des éléments concrets. Mais psychologiquement, la dynamique est la même. Donc, personnellement, je n'ai jamais eu de conflit personnel interne ou de contradiction, au contraire. C'est très vivant et très exaltant et il y a des joies aussi, des joies intellectuelles.
De sentir s'approcher de la vérité, de s'approcher
seul. Oui, et puis de se sentir à l'aise vis-à-vis de tout le monde. Tout à fait à l'aise vis-à-vis de tous. Et constamment attentif à ce que vivent les différentes races, les différentes religions, les différents peuples, les différentes expériences. Il n'y a pas du tout ces idées de catégorisation, d'élimination, de sélection qui a caractérisé pendant longtemps une conception tout à fait erronée de la religion ou de la connaissance scientifique. Au XIXe siècle, la connaissance scientifique faisait des partages, elle faisait des catégories. Il y a les évolués et les attardés. En 1960, on disait encore les pays développés et les pays sous-développés. Voilà la terminologie. Pour l'esprit, cette terminologie ne peut pas être acceptée.
Il est possible que je me trompe avec ma question, pensant à la religion comme à la religion musulmane, comme à la religion catholique. Quand on entre une religion, comme Kierkegaard par exemple l'a dit, il faut faire un saut qualitatif et s'abandonner à la religion, s'abandonner au dogme, s'abandonner à Dieu. Et on ne peut penser après.
Oui, ça c'est...
Donc beaucoup de gens simples, je m'excuse, c'est parfois la religion, comme l'explique tout, le bouche-trou, l'explication de tout, alors on y est, on accepte et on ne pense plus.
Oui.
C'est une manière de comprendre la religion de beaucoup de gens, il m'apparaît.
Oui, ça c'est une manière effectivement qui a pu s'imposer à certaines personnalités ou dans des contextes socio-culturels où la connaissance scientifique n'avait pas encore franchi toutes les limites qui la contraignaient pendant longtemps. Aujourd'hui, la connaissance scientifique ne peut pas se satisfaire de cette attitude-là. Justement parce que l'anthropologie, par exemple, est une expérience scientifique qui n'a pas d'égal, parce que l'anthropologie nous oblige à quitter notre propre culture pour aller nous installer dans d'autres cultures très éloignées. Et de nous installer dans ces cultures pour devenir un membre de cette culture. Donc il y a là un exercice qui est à la fois un exercice de l'intelligence, mais aussi de la sensibilité. Et quand on va vers une autre culture, on n'y va pas du tout avec les a priori, justement, que notre religion ou notre culture est supérieure à celle que j'étudie. Ça, c'était de l'ethnographie. Ça n'était pas de l'anthropologie. Donc vous voyez que l'expérience scientifique que nous vivons maintenant avec les sciences sociales et les sciences humaines nous oblige à abattre des cloisons qui ont été élevées pendant longtemps entre les religions et les cultures liées à ces religions. Voilà pourquoi l'entrée en religion, comme vous dites, à la manière de Kierkegaard ou d'autres mystiques, aujourd'hui ne veut pas satisfaire. Parce que c'est une attitude qui limite l'esprit dans sa dynamique, que j'ai définie.
Et sa dignité.
Et l'esprit n'accepte pas de limite. Tout ce qui vient limiter l'esprit est un affaiblissement de l'esprit et une atteinte grave à la dignité de l'esprit, qui est appelée toujours à une connaissance en quelque sorte infinie. C'est ce sens de l'infini de la connaissance qui maintient la dynamique de l'esprit. Et aujourd'hui, nous avons tout de même compris cela grâce à une conception de la connaissance des cultures qui n'est plus du tout, enfin, pas pour tout le monde, malheureusement, mais vous avez quand même... maintenant, un certain nombre de savants qui enseignent ces choses-là et qui défendent ces choses-là. Partout, en particulier pour l'anthropologie, on a des noms d'anthropologues qui défendent ces positions-là. Et l'anthropologie, j'insiste sur l'anthropologie parce que c'est une science adaptée à la circulation des hommes à travers la planète dans ce 20e siècle. Avant même la Deuxième Guerre mondiale, les hommes ne circulaient pas avec autant d'intensité et de facilité à travers toute la planète. Et un autre phénomène auquel nous assistons, c'est le phénomène des flux migratoires. Par exemple, les Asiatiques, en grand nombre, viennent s'installer en Europe. Des Européens sont allés s'installer en Asie et en Afrique. Et maintenant, c'est le phénomène inverse. Ça change complètement le rapport que nous avons avec notre société, notre identité, et par conséquent le rapport que nous avons avec les cultures que nous considérions comme étrangères. Ces cultures étrangères sont en train de devenir des cultures nationales. Ça, c'est un phénomène nouveau. Malgré les résistances des Européens, la culture musulmane est en train de devenir une culture nationale. Et même bouddhiste, même hindouiste. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une promotion de l'esprit. Ça n'est pas un retrait, comme beaucoup le pensent.
Tous les extrémistes tentent.
Et oui, mais bon, ça va demander du temps. Mais il y en a qui comprennent déjà que c'est une promotion des sociétés européennes. Elles ont la chance d'avoir créé des conditions politiques démocratiques telles qu'elles peuvent absorber des cultures différentes sans se disloquer brutalement. C'est un signe de leur santé et de leur avance.
De pouvoir absorber.
De pouvoir recevoir et permettre à des cultures différentes de vivre et de s'exprimer, à condition qu'elles le fassent, bien sûr. Là, j'idéalise un peu, parce que c'est ma philosophie. Moi, c'est ma philosophie. Par exemple, je m'insurge contre les Algériens qui ont laissé partir tous les Juifs et tous les chrétiens qui vivaient en Algérie. Et l'Algérie est devenue une société monolithique, c'est-à-dire une société dangereuse pour elle-même, sans vitalité. Ce qui maintient la vitalité dans une société, c'est le pluralisme. Et les Algériens ne l'ont pas encore découvert. Les Juifs d'Algérie qui sont venus en France et qui sont devenus de très grandes personnalités, la France s'est enrichie et l'Algérie s'est appauvrie. Avec l'élément juif. La même chose au Maroc, la même chose en Tunisie. J'ai beaucoup de collègues qui sont juifs de Tunisie, qui sont juifs d'Algérie, et qui sont des intellectuels qui apportent de grandes richesses. Sans parler du monde de la finance, du monde du journalisme, etc. Donc, il y a des changements profonds qui sont en train de s'accomplir et on ne peut plus accepter la conception kierkegaardienne de la religion ou la conception mystique traditionnelle de la religion. Ça, c'est fini.
C'est un processus irréversible.
Absolument, oui, absolument.
Oui. Je crois qu'on constate aussi dans la société qu'il n'y a pas de possibilité de retourner ce processus. D'autre côté, il nous demande, ça va être une lutte encore longue entre la recherche de l'identité, par exemple notre identité chrétienne, et la tolérance. Qu'est-ce qu'il faut sauvegarder dans sa propre religion de valeurs, et qu'est-ce qu'on peut accepter pour l'enrichir?
Ben voilà justement quelque chose qu'on est en train seulement de commencer à prendre en considération. Comment un chrétien doit considérer la question de la révélation? Si le chrétien se met à étudier de façon scientifique, du point de vue de l'anthropologie culturelle, la manifestation de la révélation dans d'autres religions que la religion chrétienne, et il le fera, il va le faire, il ne peut pas y échapper. Jusqu'à présent, il se réfugie dans la définition théologique. Il ne veut pas confronter cette définition théologique avec les phénomènes qui se sont affirmés dans d'autres religions. Mais quand il va le faire, ben, il va changer son rapport à la révélation, et par conséquent, sa foi va se transformer. Je ne dis pas qu'elle va disparaître, elle va se transformer. Et de la même façon, la foi du musulman se transformera. Le jour où le musulman se mettra à étudier la conception chrétienne de la révélation telle qu'elle se livre, telle qu'elle est, et non pas telle qu'il l'impose lui.
C'est justement un problème que je me pose personnellement maintenant. Je vous ai écrit que dans notre rédaction, nous avons une collaboratrice marocaine qui travaille, et par principe, nous avons choisi, dans cet ancien, dans une revue chrétienne, une collaboratrice musulmane.
Oui.
Parce que nous avons, comme vous à Paris et en France aussi, le problème, je dirais, c'est trop peu dire, la réalité des migrants. Nous avons accepté une marocaine. Je connais aussi dans notre paroisse chrétienne quelques efforts qu'on a fait pour rencontrer des musulmans turcs, pour les inviter. Mais ce qui est frappant pour moi, c'est que de l'autre part, du côté musulman, l'intérêt, l'accueil ou bien la recherche de connaître la chrétienté, le christianisme, est beaucoup plus faible. Parfois, on a l'impression, oui, mais nous devons, nous comme chrétiens, toujours devons faire le premier pas. Est-ce que ça peut être une attitude de supériorité un peu cachée aussi?
Non, c'est une attitude de faiblesse.
De faiblesse?
Absolument. C'est une attitude de faiblesse.
De la part des chrétiens?
Non, de la part des musulmans. Les musulmans, premièrement, ne connaissent pas leur religion. Ils sont incapables de parler intellectuellement et théologiquement de leur religion. Ils ne savent pas ce que c'est que la théologie. Il faut le savoir. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils reçoivent des bribes de religion comme ça. Ils vous diront, le Coran, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas y toucher parce que c'est la parole de Dieu. Et puis ça s'arrête là. Vous vous rendez compte?
C'est pas un discours théologique, ça.
Oui, alors qu'il y a eu des théologiens musulmans qui ont écrit des montagnes de livres au 8e siècle sur le statut divin de la parole de Dieu. En quel sens pouvons-nous dire que le Coran est parole de Dieu? Il se pose la question. Ben, votre Marocain, je suis sûr qu'elle ne se la pose pas. Elle est incapable de se la poser. Donc elle ne peut pas venir discuter avec vous. Elle ne peut pas s'intéresser à ce que vous lui dites. Si vous lui dites Jésus est le Fils de Dieu, elle ne comprend pas. C'est parce que elle va refuser parce qu'elle vous dira le Coran ne dit pas ça. Puis ça s'arrête là. C'est donc l'absence de formation intellectuelle. Ce qui par conséquent dénote une faiblesse intellectuelle. Il faut bien se dire que les musulmans sont en état de faiblesse intellectuelle par rapport à leur propre religion. Et tant qu'ils seront dans cet état de faiblesse par rapport à leur propre religion, qu'ils ne peuvent pas assumer de façon théologique, ils ne pourront jamais venir faire des investigations auprès des chrétiens. Jamais, malheureusement. Et ça...
D'autre part, il faut dire que de plus en plus de jeunes chrétiens n'ont pas non plus cet esprit théologique. Non,
parce que les uns et les autres sont engagés dans notre culture laïcisée, matérialiste, qui a complètement disqualifié le religieux. Le religieux est disqualifié. Ceux qui ont le courage en Europe de parler de religion, car il faut avoir du courage pour parler publiquement de religion, ils sont immédiatement considérés comme des gens demeurés. C'est des attardés en Europe. C'est ça la sensibilité commune. Parce que la religion est évacuée. Et la référence religieuse est une survivance dans la culture européenne contemporaine. Et c'est le résultat du laïcisme dont on a parlé. Et c'est aussi le résultat du positivisme scientiste. Parce que les Européens ont le sentiment de vivre sur des certitudes scientifiques. Ce qui est une croyance absurde. Tout à fait absurde. Aussi absurde que la croyance religieuse telle qu'ils la perçoivent. Mais ils ne se rendent pas compte de l'absurdité d'une attitude de croyance en une positivité scientifique et du rejet qu'ils font d'une croyance qui est psychologiquement équivalente en matière religieuse. Ça, c'est un problème de notre culture et de notre société. Et évidemment, les jeunes musulmans qui vivent en Europe, ils partagent ce ils ne peuvent pas échapper.
Et cette quête va recommencer un jour, par nécessité ou bien par goût, ou est-ce qu'on est en train de dégrader de plus en plus dans le monde musulman, mais dans le monde chrétien?
Sur ce plan, je crois que nous sommes égaux. Nous sommes égaux, nous sommes égaux en ce sens que la civilisation matérielle a pris toute la place et la quête du sens, comme je l'ai dit, est de plus en plus absente chez les hommes et les femmes de notre temps. C'est la quête de l'efficacité qui définit l'action du citoyen.
Et la puissance.
Un citoyen va trouver du travail s'il est efficace, c'est-à-dire s'il peut rapporter à l'entreprise où il va être embauché. Et on ne va pas lui demander de produire du sens là où il travaille. On va lui demander d'accomplir de la manière la plus performante la technique qu'il maîtrise. Point. Moyennant quoi, son salaire augmentera, sa position sociale s'élèvera et son pouvoir dans la société sera proportionnel à cette réussite. La question du sens, il peut la poser en privé, si ça l'intéresse. Et la société ne le lui demande pas. Elle n'en a pas besoin. Et ça, c'est une option philosophique extrêmement forte. Dans les sociétés occidentales, depuis au moins le 19e siècle. Et ça s'est accentué considérablement avec ce qu'on appelle la macroéconomie. L'économie à l'échelle mondiale. Et ça, c'est un problème maintenant qui se pose à tout le monde. Que nous vivions dans des sociétés pauvres ou dans des sociétés riches, nous sommes soumis à ce grand mécanisme du système monétaire mondial, du système économique mondial et de la productivité à l'échelle du monde et qui a des retentissements évidemment sur tout ce qui concerne la recherche encore une fois du sens de notre existence et cela je le crains va s'imposer encore longtemps parce que même dans l'activité des sciences sociales et des sciences humaines, comme nous les appelons, il n'y a pas de réaction contre cette situation. Parce que les sciences sociales sont en train d'imiter les sciences exactes. Elles veulent être aussi exactes que les mathématiques ou la physique ou la chimie, les sciences de laboratoire. Et donc elle vise la technicité. Alors je ne sais pas ce qui pourra sortir de cette technicité, quel type de sens s'imposera à nos sociétés si nous arrivons à développer au maximum cette technicité dans les sciences sociales et dans les sciences humaines. Ça c'est une aventure.
Je peux m'imaginer qu'il y a des croyants ou des non-croyants qui pensent que vous êtes théocrate, que vous voulez instaurer une théocratie, un nouveau type de religion qui englobe toute la société, ou est-ce que j'interprète mal?
Non, non, c'est pas du tout ça, puisque je vous ai dit tout à l'heure que je suis pour le pluralisme.
Oui.
Et que toutes les cultures qui coexistent dans une société devraient recevoir des possibilités de s'épanouir et des possibilités de se développer et de s'affirmer dans le même espace social. Ce qui nécessite un dialogue constant entre ces cultures, des échanges constants, et ce qui va nécessiter aussi des libertés accrues dans la société. Et ce qui est à l'opposé d'un modèle unique qui serait imposé aux sociétés.
Je choisis mal mes mots.
C'est tout à fait l'opposé.
Oui. Mais comment retrouver alors ce sens religieux? Comment faire trouver ou ouvrir les yeux des jeunes, par exemple, dans notre société, à cette réalité qui, pour vous, pour moi, est si importante, qui domine le sens de la vie?
Eh bien, en faisant surgir la question du sens dans toutes les activités auxquelles se livrent les citoyens. Que signifie ce que je fais en tant qu'ingénieur pour mon existence individuelle et pour l'existence de la société à laquelle j'appartiens? Quelle est la signification de mon activité de technicien, de médecin, de financier, de politicien pour la condition humaine? Quel est le rapport entre mes engagements politiques et la condition humaine? Voilà. Si nous posons systématiquement cette question dans tous les domaines d'activité, à ce moment-là, nous allons redonner de l'importance à la vie de la conscience, à la vie du sujet humain, comme sujet conscient, comme sujet qui se regarde dans tout ce qu'il fait, pour demander des comptes à soi-même dans ce que nous faisons. Et c'est cette vigilance de la conscience dans toutes les activités, encore une fois, que nous produisons dans la société, qui peut redonner une place à la question du sens dans notre existence. Parce que les religions, en définitive, se sont préoccupées du sens. Elles ont voulu donner un sens à notre existence. Un sens au double sens, ce qui veut dire la direction, et qui veut dire aussi la signification.
La motivation.
Oui. Et cette éducation pour le sens enrichit et dynamise la conscience. Et donne au sujet, encore une fois, au sujet humain, cette flexibilité, cette qualité de l'attention aux autres et à soi-même, qui aujourd'hui manque parce que nous produisons des activités mécaniques où la conscience n'est pas engagée. C'est par là que nous pouvons régénérer dans tous les espaces publics le sens, non pas de la religion, moi je n'aime pas employer le mot, parce qu'il est vieux. Il est inadapté.
Il est trop chargé.
Il est trop chargé de choses dont il faut se débarrasser. Il est trop lourd. Tandis que le sens, il a cet avantage d'indiquer la direction du regard. Dans quel sens je regarde? La direction du mouvement. Vers où est-ce que je me dirige? Et en même temps, la signification de ce regard. Pourquoi est-ce que je regarde là et non pas là? Il y a toujours la question, le questionnement sur le sens, car il y a un danger. le danger de revenir aux religions telles qu'elles étaient, c'est le danger de croire qu'il existe un sens qui est déjà là, qui est déjà fabriqué, et qu'il suffit d'aller le prendre.
Comme une loi de nature.
Eh oui, comme le droit naturel. Mmh. Aujourd'hui, les juristes, c'est fini le droit naturel. Terminé. Et le sens qui est là, qui est bien conservé dans les Écritures, que nous déclarons saint, ça n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, par la linguistique, que ces Écritures ont plusieurs possibilités de signification. Il n'y a pas un sens fixé qu'il soit possible d'expliciter et de livrer aux autres, comme l'ont fait les prêtres, les imams, les rabbins, tous les gestionnaires du sacré, comme les appelle Max Weber. Ça, c'est terminé. Voilà pourquoi je ne parle pas de religion.
Mais la quête du...
Et je ne dis pas aux jeunes, je vais vous ramener à la religion. Jamais. Jamais. C'est fini. Ce langage est fini. Ce qui n'est pas fini et qu'il faut faire, c'est l'exigence de la personne humaine d'aller vers le sens. Mais d'aller vers le sens en combattant sans cesse. C'est ça, notre nouveau combat spirituel. Ça n'est pas d'aller retrouver des sources et des enseignements qui sont là, déposés comme un trésor dans lequel on va toujours puiser. Non, 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 ça c'est terminé. C'est terminé. On ne peut pas faire ça. Parce que il faut intégrer l'effort des hommes au cours de l'histoire pour élaborer la connaissance scientifique. Et la connaissance scientifique, c'est une longue expérience de l'esprit humain. Et cette expérience a capitalisé un grand nombre d'acquis. Et il faut travailler avec ces acquis et les enrichir par le même effort de l'esprit pour la connaissance. Et c'est ce qu'ont fait les prophètes, c'est ce qu'ont fait les religions. Il n'y a aucune raison de répéter sans cesse des gestes d'autrefois. Non. Donc le mot même religion et ce que la religion a désigné, maintenant nous le dépassons. De même que nous dépassons le concept de laïcité. Les Français n'aiment pas quand je leur dis ça. Alors, ils se disent, c'est un musulman, on ne comprend pas ce que c'est la laïcité. Ben oui, comme ça.
Est-ce que j'ai parfois cette impression, en pensant à tous ces gens qui passent dans la rue en vous attendant, est-ce que la plupart de ces gens n'est pas préoccupés de cette quête du sens?
Non.
Ils ont cette quête surtout de leur subsistance. Est-ce qu'on ne risque pas d'entrer dans une affaire, une philosophie pour les intellectuels, pour un cadre qui a le temps et la possibilité de penser?
Ben, il y a une résurgence des idéologies anciennes. On assiste par exemple à une résurgence de l'idéologie nationaliste. Regardez ce qui se passe pour la construction européenne. Les discussions autour du traité de Maastricht révèlent la ténacité de la conception nationaliste de l'identité de chaque peuple et la résistance de chaque peuple à entrer en communication avec d'autres peuples, même s'ils sont proches et s'ils se sont développés sur les mêmes bases intellectuelles et culturelles. Quelle différence entre l'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Belgique, la Hollande, quelle différence? Les mêmes bases intellectuelles, la même expérience, le même combat historique pour une promotion de l'homme dans cette partie du monde. À la fin du XXe siècle, on leur propose un traité et chacun le déchire au nom de sa nation. Ça se passe en Europe, ça ne se passe pas en Afrique, chez les tribus. Eh bien, l'Europe a une réaction tribale devant Maastricht. Mais comme l'Europe est en même temps arrogante, elle ne dira jamais qu'elle a une réaction tribale. Elle ne l'avouera pas. Mais ça, c'est la condition humaine, c'est les hommes.
Je voudrais répéter ma question dans le sens, est-ce que vous pouvez atteindre, par exemple, vos étudiants ou des gens simples avec ces idées? Est-ce qu'ils comprennent ce que vous voulez dire sur la quête du sens?
Ah ben bien sûr, oui. Ah oui, oui.
C'est pas un schéma...
Non. Par exemple, quand je parle à des musulmans sur de la quête du sens, si je leur cite des versets du Coran, où je leur cite des grandes personnalités religieuses d'autrefois, ils ont passé leur vie à rechercher le sens. Donc c'est quelque chose.
C'est ça qui change.
C'est ça qui change. Mais l'expérience et l'exigence de la quête du sens, nous la portons en nous autant que nous portons en nous le besoin d'aimer. Le besoin d'affection et de tendresse échangée. Pas besoin qu'on nous explique. C'est instinctif. Aucun être humain ne peut éliminer de soi le besoin d'aimer. Sa femme, sa mère, son fils, même son prochain, ses amis. C'est en nous, c'est un besoin. On ne peut pas vivre tout seul. Et dans cette activité, nous voulons comprendre. Et c'est ça le sens. C'est une expérience immédiate. C'est une donnée immédiate de la conscience, comme dirait Bergson. Donc, ce qui est difficile à enseigner, c'est l'ouverture de l'esprit pour convaincre, par exemple, un hindou que son voisin musulman détient une expérience qui peut l'intéresser. Et inversement. C'est ça qui est difficile. Parce que nos systèmes éducatifs nous maintiennent dans des conceptions fermées de notre identité. C'est ce que je viens de vous dire pour Maastricht. C'est parce que l'enseignement tel que nous le donnons aux enfants développe un sentiment très fort de nationalisme irréductible aux autres. Vous êtes belge, j'ai pas besoin de... Enfin, les Belges, les Flamands et les Wallons, c'est quelque chose.
Ils ne sont pas des tribus, mais...
c'est quelque chose quand même. Qu'ils ne puissent pas poser un problème d'une façon plus simple. En encourageant bien sûr toutes les expressions culturelles des deux côtés. Il ne faut pas les minimiser. Que l'un essaye de marginaliser l'autre. Ça c'est facile. Vous avez une démocratie qui vous permet de le faire. Mais pourquoi l'animosité? Pas de place pour l'animosité. Au contraire. C'est un enrichissement pour les deux. C'est un plus d'apprendre le français et d'apprendre le flamand. c'est un plus. Ce qui est intolérable, c'est que les Flamands disent « on n'apprend pas le français » ou inversement, ça c'est intolérable. En Algérie, le gouvernement dit « le berbère est interdit ». C'est intolérable. Ils interdisent la langue la plus ancienne du pays. La culture la plus ancienne. Ça c'est intolérable.
Et d'où vient profondément cette peur, non, en Algérie, mais cette peur humaine de dépasser ses limites, dépasser cette identité soi-disant bien encadrée?
Non, pour moi, je crois qu'elle vient du type d'instruction que nous donnons à nos enfants. Mm-hmm. Nos manuels d'histoire, nos manuels de littérature, nos manuels de géographie, nos manuels d'instruction civique, sans parler de la façon dont nous enseignons la religion. Tout ça, ça concourt à vous donner une vision de ce qu'on appelle la culture, l'identité, la nation, etc.
Mais c'est aussi une conséquence d'une nécessité de s'affirmer. À cause d'une peur de ne plus exister.
Il y a aussi la volonté de domination, mm-hmm. qui est une donnée chez l'homme. L'homme recherche toujours le pouvoir, mm-hmm. et un plus dans le pouvoir, toujours. C'est aussi une dimension de l'homme, il ne faut pas se le dissimuler.
Ce qui se traduit dans les religions, dans les conversions.
Ça se traduit dans les conversions, ça se traduit aussi dans la formation des empires qui se servent de la religion. La religion est transformée en instrument de pouvoir. Parce que le pouvoir est une dimension anthropologique de l'homme. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appellera « Violence sacrée et vérité ». Voilà les trois grands ressorts de l'activité humaine, qui n'ont pas été suffisamment analysés ensemble.
La violence, le sacré.
Et la vérité. Oui. La vérité émerge toujours dans un contexte de violence, quelle qu'elle soit. Et elle ne parvient à s'enraciner dans un milieu social qu'à partir de la violence. Une violence exercée ou une violence subie. Quand le christianisme, au départ, a essayé de se répandre, il a rencontré la violence romaine. La persécution romaine, jusqu'au jour où lui-même est devenu pouvoir. Et c'est lui qui va exercer la violence. Donc il y a la violence reçue, la violence exercée. Parce qu'une parole dérange. Elle dérange des pouvoirs établis. Et donc, elle déclenche la violence. La parole du Christ a déclenché la violence. La parole des prophètes a déclenché la violence. La parole de Marx a déclenché la violence, bien qu'il fût philosophe. Et une fois la vérité installée et enracinée dans un espace social, elle devient sacrée. Elle est sacralisée par les hommes qui l'ont adoptée. Et une fois qu'elle est sacralisée, elle va à son tour engendrer la violence. Si quelqu'un y porte atteinte, il commet un sacrilège.
Vous voyez ?
On l'exclut. Parce qu'il fait un sacrilège vis-à-vis de la vérité. Qui à l'origine a été établie elle-même par un sacrilège qui a déclenché la violence. Et ainsi de suite. Et c'est à travers le Coran qu'on peut analyser ça. Il y a beaucoup d'exemples dans le Coran pour illustrer le fonctionnement de ces trois ressorts, de ces trois puissances qui déterminent toute la configuration psychologique de chaque individu.
L'individu aussi.
Mais bien sûr, c'est l'individu qui est le moteur premier. Et l'individu s'engage dans la collectivité et ça fait...
En parlant de la conversion, alors vous vous licenciez de convertir, par exemple, de la part de l'islam, autre personne à la religion, en lisant par exemple le livre de Gilles Kepel, hein, on a abouti à une conclusion que oui, l'islam a essayé dans l'histoire aussi de convertir. Il a l'idée de convertir l'humanité, le christianisme lui-même. Est-ce que pour le futur, pour l'avenir, on doit prendre distance cette idée?
Ah oui, oui, oui. Il ne s'agit pas de conversion. Ou alors, il s'agit de transformation du sujet. C'est le sujet qui se transforme par acceptation libre de passer à un autre mode de réflexion et un autre mode de réalisation de sa personne. Ça n'est pas une intervention extérieure et une attaque stratégique pour vous convertir de l'extérieur. C'est vous-même, librement, qui, par vos lectures, vos contacts, votre expérience dans la société, vous acceptez de vous transformer progressivement. Et ça se fait dans la liberté de la conscience. Parce que le climat politique lui-même garantit cette liberté de la conscience. Donc c'est une autre forme de réalisation de la personne humaine. Ça n'est plus la réalisation en quelque sorte organique, mécanique, qui se faisait autrefois pour chaque membre du groupe qui était obligé d'absorber et de reproduire fidèlement toutes les lois du groupe. Aujourd'hui, vous avez la liberté de maintenir vos choix et de vous transformer autant que votre liberté vous le permet ou vous le commande. C'est tout à fait différent.
Est-ce qu'on n'aboutit pas à un syncrétisme finalement?
Non. Non, non. N'oubliez pas que tout ce que je dis se fait par la dynamique de l'esprit, la dynamique de la personne qui est tout le temps en activité, et par la liberté laissée à la personne de conduire et d'orienter cette dynamique. Et le syncrétisme qu'on évoque souvent entre les religions, par exemple, ne peut plus, dans ce contexte-là, exister. Il est inconcevable parce que chacun résiste au syncrétisme avec sa liberté. Rien n'est imposé. Parce que ça aussi, la demande de liberté est une étape historique que les sociétés ont franchie et qui est irréversible, à moins de détruire tout ce qui existe sur Terre, toutes les œuvres de civilisation, et que les hommes repartent complètement à zéro pour refaire un cheminement d'invention, etc. faudrait tout supprimer, tout, absolument. Ne pas laisser une trace de pour que l'homme renaisse comme la première fois. Mais ça, c'est inconcevable. Et les luttes pour la liberté qu'on a menées quand même depuis maintenant moins 3000 ans ne peuvent pas s'oublier.
En traversant dans votre chambre, je voyais une icône du Christ.
Oui.
Qui était...
Et puis une figure de Bouddha. C'est Bouddha qui vient de Borobudur.
Ah oui?
Oui, d'Indonésie. Le temple de Borobudur, qui est un temple tout à fait merveilleux, qui donne une expression, j'en ai parlé justement dans mon émission, la belge, au nom de Dieu, oui. Et j'ai montré le temple de Borobudur, parce que j'avais une maquette de ce temple qui a été restauré par l'UNESCO dans les années 70, et qui est un temple qui remonte au 12e, 13e siècle, et qui exprime par une architecture extrêmement riche, et également par la sculpture sur la pierre, comme ça, de grès, toute l'expérience spirituelle du Bouddha, concentrée dans un monument. Et vous recevez une leçon absolument inoubliable quand vous visitez Borobudur, si un jour vous allez en Indonésie, à Java. Et ça, c'est justement le témoignage de si je pouvais avoir d'autres symboles plus riches et plus significatifs, j'aurais été heureux de les avoir chez moi.
En venant avec le train de Tourissi, vous pensez, tu vas sûrement demander au professeur ce qu'il ressent, par exemple, quand il visite une cathédrale.
Ah oui, oui.
Quel sentiment est-ce que ça se produit en entrant à Chartres ou à Reims, oui, ici à Notre-Dame, comme musulman?
C'est une adhésion immédiate. J'adhère à l'élan des hommes qui ont construit, qui ont conçu et construit de tels monuments qui exaltent précisément le sens du dépassement de soi, le sens de la transcendance, le sens de la quête d'un absolu, le sens de la beauté et de l'expression esthétique, le sens de la concentration de l'information pour la livrer aux autres. Et les autres, c'est le peuple qui ne sait pas lire et écrire et qui peut voir des représentations. Et j'adhère évidemment à tous les messages délivrés par la forme de l'Église, le transept qui traduit la croix, le symbolisme de la croix, les récits marqués sur les vitraux, tout cela me parle. Et j'adhère et je suis heureux de même que j'ai été, comme vous dites, très heureux de visiter des temples bouddhistes, des temples hindous. Je suis allé partout, au Japon, en Chine, en Inde, et chaque fois, malheureusement, je n'ai pas le temps de lire et de connaître intimement, comme je peux connaître la synagogue ou les églises, parce que ça m'est beaucoup plus familier. Même en Algérie, quand j'étais gauche, j'entrais déjà dans des églises et dans les synagogues. Nous avions des synagogues, et moi je suis heureux d'avoir des synagogues et des églises et des mosquées en même temps. Heureux, parce que c'est un signe de richesse. Et ça vous donne la possibilité de vous ouvrir à quelque chose qui est plus que de la tolérance. qui est une fin de connaître, la fin tenaille, pour mieux connaître. J'ai toujours été intrigué par la façon de prier des juifs dans la synagogue. Tout ce qu'ils font dans une synagogue, leurs chants, leurs habits, leurs... etc.
Votre attention à cette dimension et à cette dimension dans d'autres religions me fait penser parfois aux écrits de Simone de Veil. Cette attention maintenue pour le catholicisme comme juive,
oui.
Et probablement aussi, je ne sais pas, dans le monde.
Moi, j'adhère à des personnalités, le cardinal Lustiger que je connais, j'adhère profondément à sa personnalité. Parce qu'il a fait ce qu'il a fait en homme libre. Personne ne lui a imposé.
Et une philosophe comme Simone de Veil aussi?
Absolument, bien sûr. Bien sûr.
Je viens de lire un livre, ou quelques livres de Marguerite Yourcenar.
Oui.
Par exemple, cette interview avec Mathieu Gallet. Une interview sur sa vie. Et régulièrement, elle en parle, cette nécessité d'ouvrir les yeux, de rester toujours attentif,
oui,
à l'au-delà, à Dieu.
Oui, absolument. Ah, oui. Et ça, vous voyez, ce sont des personnalités très diverses qui pratiquent cette attitude, et c'est là que se trouve la direction pour la condition humaine. C'est cette marche de l'esprit dans la liberté, la générosité, parce qu'il faut être généreux pour recevoir ce que les autres ont, et le recevoir même s'il ne vient pas vous le donner, par votre sensibilité, vous pouvez toujours recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne sont pas éduqués à la réception. Ils ne savent pas. Quelque chose, il est là, il s'est offert, mais il n'en profite pas. Et tout ça, ça tient à l'éducation. Je ne suis pas très heureux de la façon dont fonctionnent nos systèmes éducatifs. Parce qu'ils tournent, eux aussi, à la bureaucratie, à la mécanique, à la technicité, et ils négligent tous ceux dont nous parlons. Ils n'éduquent pas la sensibilité, par exemple. Ils n'éduquent pas l'imagination. Ils éduquent une partie de notre esprit. La partie qui raisonne et qui fait des démonstrations et des déductions. C'est tout. Mais l'imagination est stérile, en friche. La sensibilité, c'est énorme, la sensibilité. Sans la sensibilité historique, sans la sensibilité culturelle, on ne peut pas recevoir les richesses du temple de Borobudur. On reste complètement indifférent, c'est des pierres, de vieilles pierres, des formes qui ne disent rien, parce qu'il n'y a pas de sensibilité.
Ma dernière question, si je peux, serait éventuellement aussi ma première. Comme croyant et comme homme, comment est-ce que vous parlez, comment est-ce que vous pensez de Dieu, sur Dieu, qui est Dieu pour vous? Vous l'appelez Allah, mais...
Non, je peux l'appeler Allah, oui, mais je peux l'appeler de beaucoup de noms. Dieu, c'est un vis-à-vis dialectique de l'esprit. C'est ce qui fait face à l'esprit. Ce qui résiste à l'esprit et l'attire en même temps. Pour déclencher sans cesse dans l'esprit ce besoin d'aller plus loin. C'est ça. C'est donc un combat intérieur qui est très bien exprimé par un grand mystique musulman du XIe siècle qui disait une très belle phrase en arabe. Je mène un combat intérieur avec mon vis-à-vis qu'il appelle du mot arabe al-haq. C'est un mot difficile à traduire parce que il signifie à la fois la vérité, le droit, le réel et l'absolu de Dieu. C'est tout cela à la fois. Et il appelle haq, il ne dit pas Allah. Alors, je mène ce combat intérieur avec pour vis-à-vis al-haq. Au nom de ce haq et en vue de ce haq. Il répète trois fois le mot. La phrase arabe est magnifique et très difficile à traduire parce que le mot haq, encore une fois, est une concentration justement de tout ce qui dynamise l'esprit, ce qui le met en mouvement, ce qui suscite en lui de l'amour, de l'intensité et de une sorte d'enthousiasme pour ne jamais se placer définitivement dans un lieu. C'est ça. Alors, si vous dites Dieu, c'est comme tout à l'heure la religion. Vous appauvrissez et vous enfermez dans une cage.
Je me rends compte.
Et oui. Parce que si vous, moi je ne peux jamais, quand je, s'il m'arrive de dire Allah, ça peut m'arriver, me trouvant surtout avec des musulmans, j'y mets tout cela. Mais je ne le dis pas de façon systématique parce que sans ça, je vais étouffer.
Un mot usé.
Oui. Oui.
Dieu, si je peux l'appeler ainsi, résiste, si vous avez dit, résiste et attire.
Oui, il résiste et il attire.
Comment est-ce qu'il résiste?
Il résiste parce que on ne peut pas s'installer totalement dans ce vis-à-vis. Parce que par définition, il s'éloigne à mesure qu'on essaye de le tenir. Et il devient opaque à mesure qu'on essaye d'y jeter de la lumière. C'est ça la résistance. Et cela, on peut le dire aussi du réel. Voilà pourquoi le mot haq veut dire réel et Dieu. Le réel qu'on essaye de connaître, il résiste. Il reste opaque. Plus on jette de la lumière dessus, plus il devient opaque.
C'est pour cela que peut être vrai que...
Donc il résiste. Mais cette résistance accroît l'attirance. Parce que ça accroît le désir de connaître. Et le désir de s'installer totalement, de coïncider totalement avec cet infini qui ne cesse pas de vous révéler toujours des faces inconnues de lui. Alors, en parlant comme ça, comme vous voyez, on peut à la fois intégrer des expériences d'autrefois, elles prennent un sens, on ne les rejette pas, et on intègre aussi des expériences de maintenant. Et on dit, ça n'est pas terminé, il faut y aller. On ne va pas s'arrêter là.
Ce sont presque des traits féminins que vous donnez à cette réalité aussi, non?
Ah, c'est bien sûr, mais bien sûr, la féminité est justement une des figures de ce vis-à-vis. Et je l'appelle un vis-à-vis parce que il y a ce dialogue permanent que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Un dialogue ne peut se dérouler qu'avec un vis-à-vis. Voilà pourquoi le meilleur nom que je peux donner à ce qu'on a appelé Dieu, c'est un vis-à-vis. Comme les deux visages se font vis-à-vis.
Comme Lévinas parle de l'autre.
Oui, Lévinas parle du visage humain comme justement mon vis-à-vis. Et c'est par ce visage humain, mon vis-à-vis, que je me constitue et que je m'élève. Et je permets aussi à mon vis-à-vis de venir à moi. c'est encore une fois une manière de parler qui a l'avantage de ne rien laisser de côté.
Éviter toute obscurité.
Et voilà pourquoi il y a tout un vocabulaire qu'il faut abandonner. On ne peut pas employer les vocabulaires comme nation, comme identité, comme origine, comme vérité, comme etc. Tout ce vocabulaire est trop chargé parce qu'il a été utilisé uniquement pour consolider des groupes, des communautés, des nations qui s'isolent les uns des autres et même vivent en état de violence les uns avec les autres. Alors tout ça, on peut le comprendre, on voit pourquoi ça s'est passé comme ça, mais il faut en sortir. On ne peut pas y rester. Et personnellement, ce qui m'a permis d'avoir cette attitude, c'est l'expérience coloniale. L'expérience du dominé et du dominant. Et le dominé devient plus fort que le dominant. Parce que le dominé fait une expérience plus continue, plus authentique, plus productive du vis-à-vis. Parce que le dominé fait constamment attention à celui qui le domine. Il est là donc comme un vis-à-vis permanent. Tandis que le dominant ne vous regarde pas, vous n'existez pas.
Il est quand même maître.
Oui, mais il ne vous regarde pas. Vous n'existez pas comme vis-à-vis. Vous existez comme objet. S'il a besoin de vous, il vient vous prendre. S'il n'a pas besoin de vous, vous n'existez pas. Donc le dominant n'a pas de vis-à-vis. Il n'a que des objets qu'il utilise autour de lui. Et les hommes qu'il domine sont des objets comme les objets du monde. Tandis que le dominé, lui, il se demande tout le temps pourquoi est-ce qu'il me domine. Donc il regarde tout le temps le vis-à-vis.
Est interpellé beaucoup plus, interpellé, interrogé.
Oui, absolument.
Une dernière question porte sur ce que nous ne pouvons pas discuter ou parler, c'est l'au-delà. Est-ce que dans votre foi, vous voyez un au-delà, ou est-ce que c'est une question qui n'est pas révélatrice? C'est une question importante, par exemple, pour les chrétiens, me paraît, au moins au niveau théologique.
Oui, elle est importante aussi pour les musulmans. Elle est importante dans toutes les religions. Mais là encore, la question de l'au-delà est liée à deux grandes insatisfactions et à deux grandes exigences permanentes de l'homme. C'est le désir d'éternité. Le dur désir de durer. Apollinaire. Vous voyez le 2 qui se répète 5 fois. Le dur désir de durer. Et le dé est dur à entendre. Apollinaire. Ça, c'est toujours en nous. Nous ne voulons pas mourir. Nous voulons vivre. Bon. Ça, c'est permanent. Et les religions ont donné une sorte de satisfaction symbolique, mais qui a été longtemps tenue pour vraie. Aussi vraie que nous vivons sur cette terre. Ça, c'est une question de psychologie et de perception. Et là encore, le ressort est le même. Le ressort, c'est le refus de mourir, sans qu'il y ait de suite. Du désir de durer. Ça, c'est le premier ressort. Deuxième ressort, la nostalgie de l'être. Mais de l'être plaignier, tel que Dieu se livre à nous, justement, tel que Dieu se livre à notre contemplation. Il se livre à notre contemplation comme l'être complet. Et nous voudrions avoir cette complétude. Nous la voulons toujours. Et l'au-delà nous la donne.
Dans notre imaginaire.
Oui, ça c'est une question psychologique. Mmh. Si les religions ont insisté sur l'au-delà, c'est parce que les hommes ont toujours réclamé de participer à la plénitude de l'être, mais ils n'ont pu conserver qu'une nostalgie, puisqu'ils ne l'ont pas, et qu'ils ne l'auront pas, qui va ensemble avec le désir d'éternité. C'est cela l'au-delà.
Et votre amour personnel avec les gens que vous aimez, les personnes que vous aimez, n'a pas ce goût de survivre personnellement pour vous? Est-ce que vous êtes à un point que vous ne voulez pas survivre dans votre évolution religieuse ou philosophique?
Si, je voudrais bien que cette sorte de combat qui est à la fois intérieur et extérieur soit continué, et j'aimerais aussi que, mais ça c'est aux autres de le dire, moi je ne peux pas le dire, je ne sais pas dans quelle mesure mon style apporte quelque chose à ce combat, et s'il apporte quelque chose qui est digne d'être recueilli et qui est digne d'être reproduit pour donner encore d'autres résultats, ça ce sont les autres qui doivent apprécier et réagir en fonction de ce que j'apporte ou que je n'apporte pas. Mais moi je souhaite effectivement qu'un certain nombre de positions, d'attitudes, d'enseignements que j'ai essayé de donner soient compris tel que moi je les vois. Et s'ils sont compris comme ça, moi je pense que ça vaudrait la peine de les recueillir, de leur donner plus de vie. J'essaie de le faire avec mes enfants, mais c'est difficile. Oui, c'est très difficile.
Ils vivent à Paris, vos enfants?
Oui.
Et ça vous donne une frustration que... Ça se transmet difficilement, par exemple, à vos propres enfants?
Ah ben bien sûr, oui.
Je pose cette question comme père des enfants aussi.
Oui, mais vous savez, la société est plus forte. Hein. Mm. Et puis mes enfants n'ont pas eu l'expérience que j'ai eue. Mon expérience coloniale, en définitive, elle m'a beaucoup enrichi. Mm. Moi, je dénonce bien sûr le colonialisme comme régime politique. Mais si tous les, enfin, ou tout au moins une bonne majorité, avaient pu vivre l'expérience coloniale comme moi je l'ai vécue,
c'est plus facile.
Bah, vous savez, l'Algérie serait dans un état. Ah oui. Bah oui. Mais ça, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, évidemment. Et mes enfants ont grandi à Paris.
Ils sont déjà mariés maintenant.
Ma fille est mariée, mon fils ne l'est pas encore, mais ils ont, ils ne connaissent pas toutes ces expériences, donc ils sont moins motivés pour aller dans le sens où j'étais moi-même.
Et ils sont encore musulmans?
Non, sur ce point, ils sont comme moi. Je leur ai quand même communiqué cette liberté de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont très sensibles à toutes les expressions qu'ils peuvent rencontrer. Ils ne privilégient pas une par rapport à d'autres. Et ils ont cette curiosité, ça, heureusement, ils l'ont reçu, et ça leur plaît. Parce qu'ils apprécient justement ce sentiment de liberté qui s'attache à cette manière de regarder autour de soi. Mon fils me l'a dit justement plusieurs fois avec un sentiment de reconnaissance, de lui avoir donné cette liberté par rapport à lui-même et par rapport à son environnement. Il n'a jamais de... Les deux, ils n'ont jamais de réaction de refus, de rejet, de jugement a priori. C'est très bien.
Pour ça, je vous remercie. Je vais essayer de transmettre ce que vous avez dit.
Oui, vous allez...
collaborer un peu dans votre mission, si je pouvais dire, de cette manière.
Oui, je serais content que vous le fassiez. Est-ce que je peux vous demander soit de repiquer les deux bandes?
Oui.
Parce que j'aimerais conserver cette...
C'est très bien.
...improvisation.
Il n'y a pas de problème. Je vais envoyer aussi certainement la publication en néerlandaise. En néerlandais.
Oui.
Je ne vais pas mettre toute la traduction une fois de plus, ça sera, je peux vous garantir seulement que ça sera
le... Ça, de toute façon, étant donné que je suis incapable de contrôler, vous assumez toute la responsabilité.
Oui. Ça serait pour le numéro d'octobre, nous travaillons toujours quelques mois d'avance.
Oui.
Là, je vais l'envoyer certainement.
Oui.
Si vous me permettez encore cette question perverse de prendre quelques photos.
Oui.
Très possible.
Oui, oui, bien sûr.
Alors je vous remercie,
vous pouvez
sincèrement.
Non, 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 non.